Black Locast présent.
Mais non!
Les Black Locals présentent une émission féminine. Rien à signaler.
Ah, bonsoir. Vous êtes sur Radio Dio 89.5 FM ou sur Internet en direct sur le site de radiodio.org. Et ce soir, en fait, on n'est pas avec vous, on est en ce moment dans les studios de Radio Dio parce qu'on enregistre une émission qu'on a déjà diffusée au mois de décembre ou janvier. Et là, on est en février 2011. Et cette émission, on l'enregistre parce qu'on voulait la refaire, parce qu'on a raté l'enregistrement. Et du coup, elle sera rediffusée dans l'année en deux parties. C'est une émission qu'on a fait donc sur le thème un peu du multiculturalisme et du féminisme et des études postcoloniales et de ce que aussi Elsa Dorlin pouvait nous en raconter. Et donc on avait pas mal débordé et on avait envie de repartir sur un truc un peu plus... de prendre plus le temps, voilà, simplement. Et voilà, donc vous entendez sûrement une rediffusion. Et voilà, donc de quoi on parle dans cette émission ? Eh ben, d'abord, je vais commencer peut-être simplement par vous dire justement d'où on est parti pour la faire. Ça a été un peu une recherche et c'est... on est d'abord parti en fait de la première émission qu'on avait fait sur la pornographie où on a décidé de faire une émission donc sur plus... comment les féministes pro-sexe se positionnent par rapport à ça et comment on peut réinventer la pornographie. Ensuite, on est arrivé sur Dirty Diaries. Mais quand on a commencé à réfléchir à comment on voulait parler de la pornographie, on a choisi de pas trop parler de comment il y avait plein de trucs pourris dans l'industrie porno et aussi des trucs du coup sexistes, racistes, bien trash, bien gravos. Mais on s'est dit qu'on avait quand même envie du coup d'en parler et justement d'y consacrer plus une émission et de revenir dessus vraiment pour aller un peu plus loin que la question de la pornographie qui véhicule du coup la pornographie classique, la pornographie production de masse quoi, qui véhicule des clichés racistes et sexistes pour aller aborder la question de la sexualité de manière plus large, quoi, dans ces questions-là. C'est peut-être pas très clair. Donc, voilà, que pour nous, en fait, c'est toutes les représentations qui touchent à la sexualité qui sont concernées, et pas uniquement la pornographie, quand on s'interroge sur le sexisme ou le racisme, en fait. Et donc, voilà, donc dans cette émission, on va principalement, du coup, parler d'analyse et des résistances qui ont été portées face au racisme et au sexisme et comment, du coup, c'est important de penser ensemble les questions de racisme et sexisme pour lutter contre ces systèmes d'oppression. Parce que le racisme et le sexisme, c'est deux types d'oppression qui sont toujours présentes dans nos sociétés et sont des rapports de domination et de discrimination qui peuvent se faire indépendamment, c'est-à-dire l'un ou l'autre, mais aussi qui peuvent s'associer. Et c'est à partir de cette idée que va se fonder le féminisme noir et pas mal d'autres réflexions, où l'idée, c'est de prendre en compte les différents types d'oppression et de discrimination pour penser un changement vers une société qu'on pourrait dire égalitaire, et pour comprendre du coup la multiplicité et la complexité des situations que les personnes vivent, pour penser les résistances et les luttes. Et voilà, donc dans cette émission, on va parler des résistances comme celle du féminisme noir américain et aussi des analyses multiculturalistes et postcoloniales dans le féminisme. Voilà, donc je vais commencer par vous parler, enfin de dire un petit peu justement qu'est-ce qu'en dit Laetitia de Chauffour, qui a écrit un texte qui est pas mal... je l'ai plus sous la main, si c'est ça. « Introduction au féminisme postcolonial et genèse de ce courant ». Donc elle dit « Le féminisme postcolonial présente en effet l'intérêt de soumettre le féminisme hégémonique au regard critique des théories postcoloniales et d'une perspective féministe qui envisage les rapports de sexe dans leur dimension historiquement et géographiquement colonisée et racisée. » Voilà. Et donc effectivement aussi, nous on va vous parler un peu de personnes racisées et pas de personnes de couleur parce que c'est plus... C'est plus pour parler de la catégorie en fait dans laquelle on met les gens et le fait qu'ils vivent une situation où on les identifie toujours par rapport à une histoire de couleur et de race et que c'est pas un état en fait. Voilà. Donc, voilà. Et du coup, pour commencer, on va d'abord s'écouter une chanson de Bams. Donc Bams, c'est une chanteuse qui fait du hip-hop. Elle s'est beaucoup consacrée à la musique, mais pas que. Elle a un parcours assez fou. Elle a été championne d'athlétisme, elle a été comédienne, journaliste, elle a fait des études de maths et elle est cofondatrice du magazine Respect. Et du coup, je vous ai sélectionné des petites citations qu'elle a pu faire. Du coup, elle nous dit « Il y a deux problèmes majeurs à l'origine de mes conflits avec les producteurs. Je suis une femme et je suis noire. » D'une part, on attend de moi que je sois douce et dans la séduction, mais il est hors de question que je me mette en string dans les clips pour vendre des CD. D'autre part, je ne vais pas mettre systématiquement des tam-tams dans ma musique pour revendiquer ma négritude. Du coup, je suis cataloguée comme ingérable. Donc voilà, du coup, Bams, elle a fait... c'est une chanteuse hip-hop, comme je disais. Elle a fait un passage dans l'industrie du disque, mais elle a décidé de faire de l'autoproduction, surtout, après. Et elle dit encore, « On vit dans un monde d'hommes. J'ai la naïveté de croire qu'une chanson peut changer le monde. À ce propos, le rap n'est pas plus sexiste que la variété française. » Voilà, du coup, on va s'écouter Bams avec le titre « Viens ».
Ceci étant dit, comment se fait-il qu'encore aujourd'hui, guerre, famine, barbarise en tout genre, des cimes, suicides, mères et familles, un temps record, s'y attarder, trop en parler, rien que d'y penser, passe pour un gars, j'entendais que veux-tu, qui peut donc, vas-y, CAS, avance, nombreux sont ceux pour qui la vue remplace l'intervention. Avancée technologique, avancée médiatique, on peut tout vivre par procuration. Que dire de cette distance? La distance qu'apporte l'écran efface le sentiment de culpabilité, d'humanité, solidarité, fraternité. Dieu nous en a pourtant tous dotés. Sommes-nous si peu, Dieu, à être sensibles, Dieu, à la misère humaine, réelle ni de nœud. Certains disent que c'est une aubaine. Ça fait partie des phrases qui traînent. Qu'importe si de ce geste intéressé une âme s'en sort. Qu'importe, dans ces moments, faut juste avoir à ses côtés quelqu'un qui dit allez, viens, si facile que de se faire du bien. Viens, si facile, oh, prends ma main. Viens, si facile que de se faire du bien. Sourire pour le voisin. Allez, viens, si facile que de se faire du bien. Viens, si facile, oh, prends ma main. Viens, si facile que de se faire du bien. Sourire pour le prochain. L'homme grand H symbolise au mieux le paradoxe. La vie, la mort en parallèle, de l'un à l'autre sans parachute. But unanime, parachever au mieux sa vie. Prime des réussites, savoir en gérer tous les paramètres. Ligne de conduite, rester le sujet dans tous les paragraphes. Rester actif, éviter la paralysie physique ou psychique. Et même si dans les parages, il y a trop de paraboles, trop de parasites dans la bouche, la plupart nos politiques. En trouble paraphasique, c'est paraplégique du bon sens, fond du parcours terrestre, une anti-réplique de ce qui devrait être notre paradis. Parenthèse faite, n'oublions pas que l'homme grand H est le paradigme du savoir-vivre. S'il partage la spontanéité, l'échange d'énergie et tes lois de vie, peut-être connaîtrions-nous un monde où chacun fréquenterait un riche, un gros, un blanc, un noir, un jaune, un maigre. Un monde où toute forme de culture gratuite, ciné, concert, expo, théâtre, opéra gratuit. Peut-être y aurait-il moins de vagues à l'âme et plus de valeureux. Début troisième millénaire en plein jour, train régional. Pour la jeune femme, ça peut faire mal. Ça peut être l'heure de la pointe, une autre âme sur carreau défunte, avec juste dans le regard de l'autre la crainte. Et rien qui dise non. Allez, viens, si facile que de se faire du bien. Viens, c'est si facile, oh, prends ma main. Viens, c'est si facile que de se faire du bien. Sourire pour le voisin. Allez, viens, c'est si facile que de se faire du bien. Viens, c'est si facile, oh, prends ma main. Viens, c'est si facile que de se faire du bien. Sourire pour le prochain. Allez, viens.
De retour sur Radio Dio 89.5 FM et sur le net, dans l'émission Rien à signaler pour cette rediffusion d'une émission qu'on a fait au mois de décembre. Et donc là, je vais continuer du coup à vous parler des analyses qui peuvent être faites dans le féminisme grâce aux théories postcoloniales et multiculturalistes et aussi aux mouvements et aux paroles que les femmes ont portées à travers le monde. La question qui se pose, c'est comment on peut du coup faire des analyses féministes, quels que soient les contextes, et du coup on peut pas calquer une grille de lecture qui serait la même pour tout le monde, à part cette question peut-être de se dire voilà, on veut la reconnaissance des droits des personnes et tout ça, leur autonomie, blabla. Mais ce qui a été mis en avant par toutes ces analyses, c'est de penser qu'on peut que réfléchir en fonction des contextes et des situations historiques, géographiques, environnementales que les gens vivent en fait. Du coup, pour penser l'imbrication du féminisme et des luttes contre le sexisme, l'impérialisme et le racisme, tout ça, il faut d'abord se défaire de l'idée que le féminisme, c'est une création occidentale et que le féminisme serait un mouvement issu uniquement de femmes blanches qui disposent de hauts niveaux de scolarisation, et que ce regard, va faire que certes, ça a pu faire une espèce de polémique au sein du féminisme, parce que ça met les femmes dans des positions inconfortables aussi, en fonction de leur appartenance sociale. Du coup, ça renvoie à une critique qui est faite à la défense de l'idéologie de l'universalisme, et des positions voilà que les personnes peuvent adopter grâce à l'universalisme. Et du coup, il y a des critiques de cet universalisme pour repenser les analyses féministes, parce que l'universalisme, il a pas mal amené aussi à penser ce qui est bon pour les autres. Et voilà, par exemple, comme l'histoire du voile en France, où quand des femmes choisissent de porter un voile par conviction religieuse, on les identifie comme soumises, comme voilà, étant complètement enfermée dans une situation patriarcale horrible et sans capacité de choix. Et il y a aussi un autre exemple qui est pas mal pour comprendre cette idée-là, c'est celui de l'émancipation par le travail, qui parle pas du tout de la même manière aux femmes finalement, parce que dans des classes pauvres ou des femmes qui ont été racisées, les femmes travaillent en dehors de la maison ou en dehors de leur foyer, en tant que domestique pour des riches, ou dans les champs, ou dans les usines, et ça depuis hyper longtemps, et pas du tout depuis les années 50 ou je sais pas quoi. Du coup, moi j'avais envie de vous citer Mohanty, qui est une indienne que Laetitia de Chauffour, dans le texte dont je vous parlais tout à l'heure, qui est disponible sur le site lepeuplequimanque.org, elle a cité. Donc, Mohanty, c'est une indienne, je ne sais pas son prénom, j'ai que les initiales, c'est CT. Elle critique la figure de la femme du tiers-monde en faisant la critique, faisant la critique d'analyses qui ont été faites récemment. Donc je vous lis la citation de Laetitia de Chauffour. Donc CT Mohanty dénonce le virage colonialiste des féministes occidentales, c'est-à-dire des présupposés à partir desquels elles construisent leurs analyses de l'oppression des femmes racisées. Un de ces processus consiste à penser la catégorie « femme du tiers-monde » comme un groupe cohérent et déjà constitué avec des intérêts et des désirs identiques, quelle que soit leur appartenance raciale ou ethnique. Du coup, voilà, elle critique cette figure-là de femme du tiers-monde que Mohanty, elle a identifiée. Donc Mohanty qui critique, et elle dit « Elle laisse peu de place aux résistances à l'oppression et à la capacité d'agir des individus. » Ainsi, en faisant des femmes du tiers-monde les victimes passives d'une oppression généralisée et totale, les féministes occidentales, par un jeu d'inversion, voient leur propre émancipation confirmée et confortent ainsi leur supériorité dans une différence fondamentale entre elles et les autres, la différence du tiers-monde. Cette différence définit la femme du tiers-monde comme religieuse. Donc là, elle va traduire en fait elle ce qu'elle comprend dans les termes qui sont souvent utilisés. Donc, la femme du tiers-monde serait religieuse, comprenez pas progressive, familialiste, comprenez traditionnelle, légalement mineure, comprenez qu'elles n'ont pas encore conscience de leurs droits, illettrée, comprenez ignorante, domestique, comprenez arriérée, et quelquefois révolutionnaire, comprenez leur pays est en guerre, elles doivent lutter. Donc voilà, ça c'est la traduction que fait Mohanty de justement ces images qu'on a de ce que sont les femmes du tiers-monde. Et elle critique du coup l'idée que c'est une seule catégorie unique. Et du coup, elle voit l'idée que cette figure, en fait, c'est un repoussoir de la femme du tiers-monde. Elle est nécessaire pour créer celle de la femme occidentale émancipée, libérée, autonome. L'une n'existerait pas sans l'autre. Voilà, du coup cette... C'est donc Laetitia de Chauffour qui a fait un travail un peu là sur cette histoire de féminisme et postcolonialisme. Et pour mieux comprendre finalement en fait la critique universelle, il faut évidemment en fait s'interroger sur l'histoire et ce qui continue d'être fait au nom du progrès, du développement, de la civilisation, et qui ramène encore à l'idée de la supériorité des Blancs et du modèle occidental sur les autres. Du coup, l'universalisme, c'est aussi un héritage d'une philosophie et d'une pensée produite par des hommes et une représentation où les hommes, au départ, étaient les seuls à bénéficier en fait, de l'exercice de la citoyenneté, de la démocratie. Et donc, c'est des pensées qui sont aussi quand même construites sur l'existence nécessaire de l'exclusion des autres, comme les femmes, les esclaves, les enfants. Voilà, du coup, ça donne aussi à réfléchir quand on pense comme ça ce modèle, qu'est-ce qui est à la base de ces fondements. Et puis, après une petite pause musicale avec Kazé chez moi, je vous ferai une petite suite. Je vous parlerai de Gayatri Spivak.
Charbon, la chapine, le coulis, la peau chapée, la grosse babine, la tête grainée qu'on adoucit à la vaseline, et le créole et son mélange de mélanine. Connais-tu le morne et la ravine, le béquet qui très souvent tient les usines, la maquerelle qui passe son temps chez la voisine, et le crack et ses déchets de cocaïne. Connais-tu le mont Pelé et la savane, les pêcheurs du Carbet, les poissons de Tartane, et les touristes aux seins nus à la plage des Salines, pendant que la crise de la banane s'enracine. Connais-tu France Fanon, Aimé Césaire, Eugène Mona et Thierry-Émile? Sais-tu que mes cousins se foutent des bains de mer et que les cocotiers ne cachent rien de la misère? Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Sais-tu qu'on soigne tout avec le rhum, la tristesse, les coupures et les angines, que d'Afrique de l'Ouest et d'Inde sont nos origines, que l'on mange riz et curry comme tu l'imagines? Sais-tu que chez moi aux Antilles, c'est la grand-mère et la mère, le chef de famille, que les pères s'éparpillent et que les jeunes filles élèvent seules leurs gosses, les nourrissent et les habillent? Sais-tu qu'on n'écoute pas David Martial, la compagnie créole et c'est bon pour le moral, et que les belles doudous ne sont pas à la cuisine, à se trémousser sur un tube de zouk machine? Sais-tu que là-bas les petits garçons jusqu'à 4 ans doivent garder les cheveux longs? Et sais-tu aussi que mon prénom et mon nom sont les restes du colon britannique et breton? Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, J'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes. Et puis sur la table, du crabe, du shrub. Sais-tu compris avec la Bible? Faites le carnaval comme toute la Caraïbe. Que nos piments sont redoutables. Nos anciens portent des noms du sexe opposé pour éloigner le diable. Sais-tu que chez nous c'est en blanc et au son des tambours qu'on va aux enterrements? Et qu'une fois par an, cyclone et grand vent emportent casse en tôle tous les vêtements. Sais-tu comme enfants et femmes labouraient les champs et puis coupaient la canne? Sais-tu que tous étaient victimes, esclaves ou nègres marrons, privés de liberté et vie intime? Sais-tu que notre folklore ne parle que de cris, de douleurs, de chaînes et de zombies? Mais putain, sais-tu encore aujourd'hui, Madinina, l'île aux fleurs est une colonie. Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes. Et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes. Et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes. Et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes. Et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, à ma famille et aux Antilles.
Voilà, c'était Kazé avec Chez moi. Et toujours sur Radio Dio 89.5, dans Rien à signaler. On se retrouve donc pour parler maintenant de questions de racisme et de féminisme, comment ça peut se penser ensemble, tout ça. Et alors, moi, j'avais envie de vous parler de Gayatri Spivak, qui est une Indienne et qui, du coup... je ne vais pas vous faire l'histoire du féminisme indien, dont j'aimerais bien connaître plus d'ailleurs de choses, parce que ça a l'air être vraiment super passionnant et il y a énormément de choses qui se font là-bas. Et je voudrais reprendre en fait une phrase qu'elle a dite et dont en fait Étienne Balibar va tenter de faire une synthèse dans un texte en fait où ils ont un entretien tous les deux sur les thèses de Gayatri Spivak qui en fait, je ne me rappelle plus exactement tout ce qu'elle fait, mais elle est là, c'est dans le contexte de la traduction, en fait, de qu'est-ce que traduire des contextes. Qu'est-ce que traduire en fait les différentes situations que vivent les gens, et notamment là dans le féminisme et dans la lecture des modèles occidentaux, comment ça se confronte. Donc elle va dire en fait. Donc je vous la lis en anglais et je vais essayer de vous la traduire après. C'est « White men are saving brown women from brown men ». Donc ce qui veut dire « les hommes blancs sauvent les femmes noires ou les femmes marrons des hommes noirs ». Et du coup, c'est une phrase qui a fait polémique et qui a permis de tenter de réfléchir à pas mal de trucs. Et donc cette phrase... Étienne Balibar essaye de faire un retour sur qu'est-ce qui a pu être dit là-dedans. Et du coup, il nous dit qu'il faut que l'homme blanc, ce colonisateur, qui est en même temps un civilisateur dans l'idéologie coloniale, vienne au secours des femmes opprimées dans la civilisation traditionnelle, sous la forme la plus violente, par leurs propres hommes, ou par leurs traditions communautaires, ou par leurs traditions religieuses. Et donc, en même temps, évidemment, il y a une reconnaissance et une dénonciation explicite du fait que la société traditionnelle est bel et bien le lieu d'un rapport de domination des femmes par les hommes, à savoir que ce n'est pas parce qu'on refuse aux hommes blancs le droit de se servir des hommes noirs contre les femmes noires qu'on justifie pour autant le rapport oppressif qu'il existe dans la société traditionnelle et qui se perpétue au-delà de la colonisation entre les hommes noirs et les femmes noires. Voilà. Est-ce que c'est bien cela ? Et du coup, Gayatri Spivak, elle rajoute, puisque c'est un dialogue en fait, elle dit « Je dirais que white n'est pas ici une couleur. Actuellement, dans la mondialisation, il faut plus se rendre compte qu'il s'agit de la description d'un espace politique. » Du coup, on pourrait comprendre ça comme l'espace politique de l'Occident, en fait. Voilà. Et que, en fait, pour Gayatri Spivak, il y a une double lecture, en fait, de cette situation. C'est-à-dire que la parole de l'Occident au nom du féminisme serait d'aller partout dans le monde sauver ces pauvres femmes de leur tradition et de l'emprise patriarcale qu'elles peuvent vivre. Du coup, ça, c'est une critique, en fait, faite en général sur cette posture-là. Et en même temps, cette critique-là, elle n'enlève pas l'idée de regarder les situations difficiles et les systèmes d'oppression que ces femmes vivent. Mais que la réponse ou la démarche comme ça d'un féminisme occidental porté comme ça, comme c'est vraiment le pire du pire et nous on est mieux, on a tout compris, on va bien, ben c'est pas mal critiqué, notamment c'est ce que décrit Gayatri Spivak en Inde, voilà, et du coup elle dit aussi avec les pauvres il faut vraiment adopter le point de vue des multi-issues, des problématiques multiples. Je veux dire que l'oppression des femmes est si profondément ancrée dans l'histoire de l'oppression humaine en général que nous devons apprendre à penser ensemble les choses asymétriques plutôt que de faire crédit aux femmes. Voilà. Et du coup, ça rejoint un petit peu en fait ce que je vous disais en début de l'émission, les analyses aussi multiculturalistes, du coup, qui, pour faire vite fait, en fait, serait un peu la prise en compte des valeurs et des situations de contexte des minorités et des sociétés dites traditionnelles. Voilà, et que du coup, en général, il y a deux problèmes à cette question du multiculturalisme. C'est en même temps, il y a une dénonciation, qu'il ne faut pas oublier que même si il y a une envie de soutenir les sociétés telles qu'elles sont, il y a quand même une dénonciation des lois qui vont contre les droits fondamentaux de la personne. Et en même temps, il y a l'idée très importante de ne pas imposer une mission de sauvetage par l'Occident, une mission civilisatrice avec des valeurs et des morales qui vont de soi. Voilà. Du coup, moi, un exemple que je trouve intéressant, c'est celui de l'excision, parce que c'est une situation très dure et très complexe. Et si vous cherchez un peu, je pense que bon, il y a beaucoup de trucs qui sont écrits là-dessus, mais il y a notamment des actions qui ont été entreprises par des femmes des pays où se pratique l'excision et qui ont fait tout un travail de médiation et de rencontres sur le très long terme avec les villages, dans les villages où se pratiquaient les excisions, et qui, par exemple, une de leurs premières actions, ça a été de réfléchir à comment réinsérer les femmes qui pratiquaient l'excision, puisque du coup c'est les femmes qui sont un peu les anciennes, enfin, les doyennes, les femmes du village qui sont vieilles et qui en fait sont celles qui font ça, mais du coup c'est leur revenu. Donc en fait si on arrête l'excision, et ben ces femmes elles sont économiquement, elles sont plus autonomes et elles ont plus de survie, et du coup il faut réfléchir à ça. Et du coup, c'est pas simple. Enfin, ça veut dire qu'on commence pas par condamner une pratique, et d'autant plus qu'elle est beaucoup l'excision est souvent aussi valorisée parce que il y a une résistance à la pensée occidentale comme justement cette pensée qui va sauver, qui sait mieux. Et du coup, les gens le prennent pas comme un truc qui serait pour les femmes. Ils le prennent comme un truc missionnaire, quoi. Et du coup, voilà, il y a cette question-là qui est prise en charge par des gens qui habitent les pays et qui connaissent les cultures et les villages où ça se pratique et qui réfléchissent à comment on peut réellement transformer les pratiques pour que ça marche pour tout le monde. Et notamment, elles font par exemple aussi des actions en direction des femmes pour leur dire voilà, quels sont les risques, quelles sont les difficultés qu'elles vont rencontrer, et pour aussi changer les mentalités, pas en imposant des dogmes tout prémâchés, tout ça, quoi. Donc moi, je trouve que c'est un bon exemple de comment il y a une pensée du multiculturalisme à l'intérieur de cette action-là, par exemple. Voilà, et puis pour comprendre un peu mieux cette histoire de multiculturalisme qui est pas mal développée par des intellectuels et des universitaires, et qui est du coup souvent pas très accessible parce que ça correspond quand même pas mal à une question de modèle politique, en fait, et qu'est-ce qu'on peut faire des droits humains avec ce modèle-là. Je vous invite à aller voir le dictionnaire du dictionnaire de Ilona Loewy et Catherine Marie, qui ont écrit donc un petit dictionnaire avec des entrées par mot qui s'appelle « Pour en finir avec la domination masculine ». Et il y a une petite phrase de... Enfin, il y a un paragraphe sur le multiculturalisme. Voilà. Et puis du coup, on va s'écouter, je crois, Shirari Mitty. Oui, c'est ça que j'avais noté. Avec... comment il s'appelle ce titre? Shiragata. Et Do, peut-être tu peux nous présenter un peu qui est Shirari Mitty.
Alors, Shirari Mitty, pas d'origine, mais après, avec ses... elle habite à Oran, en tous les cas dans la région d'Oran. Elle est née en 1923. Elle est de tradition paysanne, elle a baigné dans une culture en fait du champ rural, du coup, avec ses parents. Elle a été très vite orpheline, et donc elle a été élevée par des patrons, parce que du coup elle travaillait nécessairement, qu'elle a quitté ensuite à l'adolescence. Elle s'est émancipée, et à 14 ans, elle a suivi une espèce de troupe de musiciens nomades. Et bon, Saïda, c'était son vrai prénom, hein. Ça, à la base, ça s'appelait Paris Mitty. Donc la jeune Saïda, elle connaît la misère avant de se lancer dans la chanson, du coup, dans les années 40. Et après l'indépendance, en fait, certaines de ses chansons étaient censurées par les politiques parce qu'elle parle vachement de trucs qui sont considérés comme tabous, en fait, à ce moment-là. Et donc, elle a provoqué à la fois et le gouvernement, qui était du coup censeur, et l'islam strict. Elle a chanté, entre autres, l'amour, la femme, l'alcool, les corps emmêlés, la liberté, le féminisme. Et elle a présidé des fêtes arrosées, et c'est de là que lui vient son nom Rimiti. En fait, c'est quand elle redemandait une tournée avec la séance, ça faisait Rimiti, Rimiti, remets-moi un verre, vous voyez. Voilà. Et donc, elle s'attire une espèce de réputation sulfureuse assez rapidement dès les années 50, quoi. Et le Shiragata en question, en fait, elle, il a été considéré comme une attaque, en fait, contre le tabou de la virginité. Alors, je vous cite un petit extrait du texte qui a été traduit en français, pas par mes soins, évidemment. Et il dit, il me broie, me bleuit, il m'attise, il m'abreuve, je dis je pars et je passe la nuit, malheur à moi, qui est pris de mauvaises habitudes. Voilà. Et il faut rappeler aussi que Rimiti a chanté la difficulté des femmes en général, et qu'elle a introduit à travers ça la notion du plaisir charnel. Et c'est pour ça, ça c'est pas rien quand même. Voilà, on l'écoute.
Sharagata, 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 sharagata. Sharaku gata, wajri miti traqay. Sharagata, 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 sharagata. Albatu wa nagata tahwa an raqa. Sharagata, 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 sharagata. La 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 la. Riqlib lida baida w neddu taksi. Riqlib lida tariq lida. شهر لي وراهم قالوا لي خلصي يا 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 شرك وقطع وجري ميتي ترقي عاه قادي ربح ودي رمح كي البارح في البلاباح كي البارح فوق المطراح يا الباطونة قطعته وانا الرقعه قادي ربح ودي رمح كي البارح في البرباح كي البارح فوق المطراح يا 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 الامور بين العينين وعند الفايقين الامور يا الامور 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 الامور.
Et voilà, donc c'était Shirari Mitty avec Sharagata. Et donc toujours dans Radio Dio 89.5 dans l'émission Rien à signaler. Donc comme vous l'avez compris, hein, c'est une émission un peu de paroles, d'analyse, tout ça. Donc j'espère que vous êtes toujours avec nous, que vous n'avez pas fui. Et donc moi je voulais continuer du coup à vous présenter donc cette question d'analyse du féminisme par rapport au postcolonialisme. Alors ça fait un peu un gros mot comme ça, le postcolonial, postcolonialisme. Du coup, ce que simplement l'idée au départ, c'est de prendre en compte la spécificité de la situation des femmes dans un contexte colonial, en fait, et de ne pas zapper ce contexte-là, l'histoire dont a hérité, du coup, la population et un pays qui a été colonisé. Et du coup, simplement pour dire ce que pourrait être post ou post-colonial, tout ça, c'est donc l'idée que c'est après. Et donc de réfléchir à tout ce qui s'est produit depuis et qu'est-ce qui se passe avec cette situation-là qu'on n'a pas, qui a une suite, quoi, avec le présent. Et donc avec le colonialisme comme un héritage, et du coup qui va se recomposer, se reconfigurer. D'ailleurs aujourd'hui on parle de néocolonialisme, donc on est toujours dans cette idée de recomposition en fait du colonialisme, de reconfiguration. Donc il s'arrête pas avec les indépendances ou la fin des apartheid ou la fin de l'esclavage, qui est pas tout à fait fini par ailleurs. Et donc l'idée c'est de faire le lien donc dans ces études féministes postcoloniales entre le patriarcat et le colonialisme. Et la question qui se pose dans les analyses féministes, c'est de penser des situations différentes en fonction des contextes, des histoires politiques et culturelles auxquelles les femmes sont attachées. Donc, pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est que cette étude postcoloniale, en fait, il y a le penseur Édouard Saïd qui a montré en fait sur la construction d'une vision de l'Orient par les Occidentaux et qui va appeler l'orientalisme. Et qui a été utilisé du coup par des féministes en fait, qui ont repris du coup cette analyse de l'orientalisme de Édouard Saïd, et donc
parce que lui en fait, il le proposait surtout d'un point de vue littéraire en fait. Lui, il le proposait dans une analyse de la littérature, et du coup les féminismes en fait, elles reprennent le concept et elles l'investissent en fait dans la pensée du féminisme en lui-même.
Voilà, et du coup, je vais vous lire, du coup, toujours par rapport au texte d'introduction au féminisme postcolonial et genèse de ce courant, qu'on retrouve donc sur lepeuplequimanque.org, écrit par Laetitia de Chauffour. Du coup, la construction de l'Orient par les Occidentaux, appelée l'orientalisme de Édouard Saïd, et donc elle en parle un peu. Elle dit « L'orientalisme vise à appliquer à l'Orient, donc c'est l'analyse de Édouard Saïd, hein, vise à appliquer à l'Orient un système de représentation binaire. L'Orient, ou plutôt l'idée de l'Orient, est le miroir inversé de l'Occident, entendu par Saïd comme l'Angleterre, la France et les États-Unis, et se voit essentialisé et réduit à un stéréotype. L'oriental est défini par l'orientalisation comme un être passif, feignant, instinctif, spirituel et à la sexualité débridée. Tandis que l'Occident tend inexorablement vers le progrès, l'Orient reste arriéré et stagne dans la tradition. » Voilà, et du coup, l'universitaire turque Maida Yegenoglu, en 98, excusez ma prononciation, a par exemple, elle s'est largement employée à renouveler l'analyse de Saïd sur l'orientalisme en y étudiant le caractère sexualité du rapport colonial, et elle a montré dans les représentations de la différence sexuelle et de la différence culturelle qui sont imbriquées les unes dans les autres. En fait, elle a essayé de montrer ce lien-là. Voilà, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, comment cette analyse-là, elle peut servir du coup aussi au féminisme et de montrer que ça concerne plein de types d'oppression du coup et plein de types de personnes. Voilà. Du coup, on pourrait dire aussi du coup que le féminisme postcolonial, il conteste un féminisme identifié comme universaliste, donc le féminisme blanc occidental, comme caricature, hein, on pourrait dire. Et donc c'est aussi le féminisme noir, le féminisme chicanas, arabe, autochtone, qui vont bouleverser en fait les analyses féministes en mettant en avant les rapports de domination qui contraignent les femmes racisées. Ces féminismes ont pour point commun de lire l'oppression des femmes à la lumière du racisme, de l'esclavage et ou de la colonisation. Parce que du coup, comme Gayatri Spivak, elle parle de colonialisme, mais elle dit qu'en fait l'héritage de la domination et des empires, il est tellement énorme que finalement l'Angleterre a une importance dans un colonialisme encore aujourd'hui, mais qu'il est pas si grand finalement, parce que il y a des Indiens qui ont un héritage de domination qui a des siècles et des siècles, et les Anglais font partie de cette histoire comme d'autres, quoi. Donc c'est pas
comme
que
tous
ça.
Les anciens empires, quoi, en fait.
Ouais. Et pardon, je me suis perdue. Oui, donc voilà, ces féminismes, ils ont permis de repenser les concepts et les problématiques de la famille, du travail, de la violence avec l'histoire coloniale et les expériences de racisme. Du coup, les études postcoloniales montrent combien l'impérialisme et le patriarcat sont interdépendants et s'accordent à préserver l'ordre dominant. Donc les études féministes postcoloniales sont dans un même processus d'analyse, disent que les luttes noires... que les luttes des féministes noires, chicanas, arabes ou indigènes. Voilà, du coup, j'en avais fini pour ça. Et je voulais vous, du coup, qu'est-ce qu'on... Ah oui, on était parti pour écouter Queen Latifah.
UNITY, du coup, c'est des initiales. Et Queen Latifah, bah, c'est l'une des premières rappeuses féminines américaines. Elle a débuté dans le groupe Ladies Fresh à la fin des années 80. Son premier album... All Hail the Queen sort en 89. Elle a des textes politiquement engagés. Elle est devenue mannequin aussi d'une ligne de lingerie pour personnes rondes ou corpulentes. Elle a fait son coming out aussi il y a pas longtemps. Enfin, voilà, Queen Latifah, elle a plein d'idées. Elle les dit aussi en chanson. Et voilà, on écoute UNITY.
Brother, call a girl a bitch or a hoe. Trying to make a sister feel low. You know all of that got to go. Now everybody knows there's exceptions to this rule. I don't be getting mad when we playing, it's cool. But don't you be calling me out my name. I bring crap to those who disrespect me like a dame. That's why I'm talking. One day I was walking down a block. I had my cut off shorts on, right? Cause it was crazy hot. I walked past these dudes when they passed me. One of them felt my booty, he was nasty. Yeah. I turned around red, somebody was catching the rat. Then the little one said,
yeah, me, bitch.
And laughed. Since he was with his boys, he tried to break fly. I punched him dead in his eyes, said,
who you crawling here, bitch?
You gotta let him know.
Bad days at work give you an attitude and you were rough. And take it out on me, but that's about enough. You put your hands on me again, I'll put your ass in handcuffs. I guess I felt so deep in love, I grew dependency. I was too blind to see just how it was affecting me. All that I knew is you was all the man I had. And I was scared to let you go, even though you treated me bad. But I don't wanna see my kids see me getting beat down by daddy smacking mommy all around. You say I'm nothing without you, but I'm nothing with you. A man don't really love you if he hits you. Yeah. This is my notice to the tool. I'm not taking it no more. I'm not your personal whore. That's not what I'm here for. Ain't nothing good gon' come to you till you do right by me. Brother, you ain't
sitting
in the
bitch.
You and I do. Now that you saw Apache's video, I saw you wildin', acting like a fool. I peeped you out the window, jumping girls after school. But where did all of this come from? A minute ago, you was a nerd and nobody ever heard of you. Now you a wannabe. You barely know your ABCs. Please, this
plenty of people out there with triggers ready to pull it. Why you trying to jump in front of the bullet? Young lady, and real bad girls are the silent type. Yeah. Ain't none of this work getting your face sliced. Cause that's what happened to your homegirl, right? Walking with nobody. She got to wear that for life. Who you calling a bitch?
Et voilà, du coup, on vient de s'écouter Queen Latifah avec UNITY, toujours sur Radio 2 89.5 dans l'émission Rien à signaler, pour donc cette émission sur articulation entre féminisme et racisme. Et la suite, on va plutôt vous parler donc un peu de... Enfin, moi, je voulais vous faire une petite biographie, en fait, de pas mal d'auteurs qui traitent un peu de ces questions-là et dont on n'a pas du tout le temps de vous parler. Prenez vos stylos si vous êtes intéressés. Il y a des choses assez variées en fait. Après, c'est vrai qu'il y a à des moments des textes qui peuvent être pas très simples d'accès. Mais ça peut aussi être des entrées pour prendre leur nom et aller voir des gens qui ont aussi écrit sur eux, ou même des fois il y a des vidéos sur YouTube où c'est des gens qui peuvent être interviewés. Du coup, c'est quand même une parole qui est plus accessible, plus digeste que leurs pavés des fois qui sont un peu hardcore, quoi. Donc voilà. Alors une qui est facile à lire, je trouve, enfin agréable à lire, c'est Ouria Boutelja, donc qui est porte-parole du MIR. Donc le mouvement des indigènes de la République, et donc elle a écrit un texte qui s'appelle On vous a tant aimé, qui est paru dans Nouvelles questions féministes et qui doit se trouver sur internet, me semble-t-il. Du coup, on a aussi donc ce que je vous parlais tout à l'heure, Gayatri Spivak, donc de son nom en entier, ça doit être Gayatri Charkavurki. Bon. Voilà, je suis mauvaise en indien. Gayatri Spivak, donc, qui fait un entretien sur la subalternité avec Étienne Balibar. Et ça, c'est trouvable sur le site Transeuropéenne. C'est un site qui parle pas mal de... avec aussi comme Terra, je sais plus quoi, qui parle pas mal de traductions. On a aussi Colette Guillemin, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Sexe, race et pratique du pouvoir ». On a du coup... Audre Lorde, qui a écrit plusieurs textes, dont deux, par exemple, que je peux vous citer, c'est « Transformer le silence en paroles et en actes ». Donc si vous souhaitez retrouver d'ailleurs ce texte, on l'avait fait en enregistrement sonore pour la première émission de Rien à signaler, qui devrait un jour se retrouver sur Radio Rageuse, le site en construction d'une association de plein de radios féministes en France, dont on espère bientôt qu'il sera bien fourni. Et puis, il y a Hamida Ben Saïda, dont on vous a parlé il n'y a pas très longtemps, qui a écrit un livre qui s'appelle « Itinéraire d'une femme française ». On en a parlé dans l'émission précédente. Il y a Wangari Maathai aussi, dont je voulais vous parler. C'est un documentaire que les filles de Face à Face ont passé à l'automne et qui a été vraiment super et qui a été réalisé par Lisa Marton et A. Dater. Donc ça s'appelle Taking Roots, The Vision of Wangari Maathai. Donc c'est une femme du Kenya qui est présentée comme une figure de résistance féministe au Kenya et qui est vraiment un super film documentaire. Ensuite, un autre livre dont on vous a parlé aussi récemment, c'est LMSI, Les mots sont importants, de Sylvie Tissot et Pierre Thévagnan. Et puis le livre qui est sorti en 2007 chez l'Harmattan, qui s'appelle Black Feminism, et dont Do va nous parler un peu justement de ce que ça concerne. Donc c'est le féminisme noir américain, et du coup voilà, c'est Elsa Dorlin qui fait un recueil de textes sur l'anthologie du féminisme noir américain. Ensuite, il y a Nassira Guenif, dont on essaiera aussi de vous parler vite fait, donc qui a écrit un texte qui s'appelle « Les féministes et le garçon arabe », qui a été publié en 2006 dans un bouquin avec Éric Massé. Et voilà, et du coup aussi, elle a écrit Les Beurettes aux descendants d'immigrants noirs africains. Voilà, donc il y a encore plein d'autres trucs hein, sur ces thématiques. Mais voilà, là, c'est une petite sélection. Et puis, bah voilà, justement, peut-être Do, tu peux nous parler de...
Bah ouais, vite, vous expliquer en quoi ça consiste ou comment est né le black féminisme, en tout cas cette expression qui a été traduite du coup dans les textes par féminisme noir, généralement. En fait, cette expression, elle recouvre la pensée et le mouvement féministe africain-américain en tant qu'il diffère du féminisme américain en général, qui était à la base vachement... tenue par des femmes blanches d'une classe privilégiée, avec des connaissances, qui avaient des parcours universitaires, etc., etc., et qui, du coup, avaient pas du tout les mêmes, en fait, les mêmes problématiques et les mêmes soucis dans leur quotidien. Le black féminisme trouve ses origines dans un malaise au sein du mouvement des droits civiques et du mouvement féministe, comme je viens de le dire, nord-américain, lors des années 70. En effet, il revendique un point de vue particulier des femmes afro-américaines, à la fois sur le féminisme en général et sur les luttes contre la ségrégation raciale en tant que telle. Le black féminisme, en fait, n'est pas limité aux femmes afro-américaines seulement. Hein. Dès ses origines, il inclut les femmes chicanas, orientales, etc., toutes les latino-américaines, tout ça. Il est plutôt caractérisé par la volonté de lier ensemble les problématiques du sexisme, du racisme et de l'oppression de classe, justement. Et il y a un truc qui s'appelle l'Alliance des femmes du tiers-monde, que je vais nommer en anglais, parce que normalement c'est en anglais, c'est la Third World Women's Alliance, qui publie le Black Women's Manifesto, donc le manifeste des femmes noires, dans lequel elles affirment l'existence d'une spécificité de l'oppression dirigée contre les femmes noires. Et dans ce manifeste, on s'oppose tant bien au racisme qu'au capitalisme. Et donc je vous dis une petite citation dans les diverses affirmations qui figurent. La femme noire demande une nouvelle gamme de définition de la femme. Elle demande à être reconnue comme une citoyenne, une compagne, une confidente, et non comme une vilaine matriarche ou une auxiliaire pour fabriquer des bébés. Le black féminisme donc développe le concept d'intersectionnalité, appelé un avenir prometteur du coup dans la troisième vague féministe, mais là c'est encore autre chose, et il souligne l'existence d'enjeux spécifiques aux femmes noires, par exemple ignorées par le mouvement féministe dominé par les blanches, donc ainsi que Angela Davis a pu le faire, proche du Black Panther Party, qui a montré alors que les Afro-Américaines étaient victimes par exemple hein, d'un programme de stérilisation contrainte, alors que les femmes blanches, elles étaient contraintes à avorter de façon super craignos, de façon clandestine, quoi. Voilà, par exemple.
Ouais. Et du coup, ça me fait penser que j'ai pas fait dans ma biographie Angela Davis, qui du coup a écrit une autobiographie et que vous pourrez... qui est pas mal citée dans des bouquins. Enfin, il y a pas mal de trucs qu'on peut quand même trouver sur Angela Davis, qui a un parcours assez terrible, quoi. Voilà, et du coup, ben moi, je voulais enchaîner sur un petit extrait d'un texte que Elsa Dorlin a écrit... Qui a été diffusé à plein d'endroits, mais on peut le retrouver sur le site d'autrecampagne.org. Donc c'est un texte qu'elle a appelé « Pas en notre nom ». Et du coup, c'est un extrait qui parle de la différenciation et du discours sur « eux » et « nous ». C'est un peu voilà cette question-là qui se pose, je trouve, et voilà, je vais vous lire ça, c'est assez, enfin, j'espère que ce sera pas trop long. « Tous les candidats de droite et d'extrême droite à l'élection présidentielle semblent tout particulièrement préoccupés par la liberté des femmes et développer une sensibilité et une attention quasi obsessionnelle à l'égalité des sexes. Tout se passe comme si la condition des femmes était devenue, comme par magie, une priorité nationale en matière de justice sociale. Non, d'immigration. Jean-Marie Le Pen... Nicolas Sarkozy, Philippe de Villiers, principalement, n'ont de cesse de nous rappeler que l'égalité des sexes est un principe constitutif de notre nation et de notre culture, voire un trait distinctif de notre civilisation, chrétienne, s'il en est. Que les femmes sont, chez nous, traitées comme des égales des hommes, qu'elles jouissent de tous les droits comme de tous les privilèges, aussi désormais l'une des conditions d'admission sur notre territoire des populations immigrées sera le respect inconditionnel de ce qui relève, à les entendre, de l'essence de l'Occident, l'égalité des sexes. Pour certains, les candidats à l'immigration en France devront signer un pacte dans lequel ils s'engagent à respecter ce qui est présenté comme une coutume bien de chez nous, le respect des femmes. À l'image des Pays-Bas, on leur diffusera des vidéos de femmes seins nus sur les plages de la Côte d'Azur ou deux hommes s'embrassant tendrement sur la bouche pour tester leur tolérance à la modernité. Voilà, donc c'est un texte du coup qui dénonce l'utilisation du féminisme par les politiques qui voilà prétendent que nos sociétés occidentales, notre société française ne connaît plus la question du sexisme aujourd'hui. Donc je trouvais ça pas mal pour aussi encore alimenter la polémique qu'on a posée dans l'émission. Et voilà, et encore, si on a un petit peu, on a encore un tout petit peu de temps, peut-être si tu as envie de nous parler d'eau, de Nassira Guenif Souliamas, non? Bah alors peut-être simplement, je vais essayer de vous dire que quand on avait préparé cette émission, on avait envie de parler d'elle parce qu'elle elle fait pas mal une analyse de la figure des beurettes. Et puis du coup, dans les féminismes et le garçon arabe aussi, elle parle en fait aussi des stigmates qu'on a dans nos sociétés aujourd'hui là sur les Maghrébins, et notamment qui est pas mal utilisé dans le mouvement Ni pute ni soumise. Et c'est assez intéressant d'avoir son point de vue pour aussi comprendre qu'est-ce qui se joue à travers ce mouvement-là de Ni pute ni soumise. Donc voilà, moi je voulais la citer. Et puis elle a témoigné pas mal par vidéo, elle fait répondre à des interviews, tout ça, donc elle est accessible un peu, quoi. Voilà, mais du coup, tu veux rajouter un truc, Do?
Non.
Donc, on va continuer par s'écouter un peu de Zik, et puis donc vous rappelez que donc cette émission, on l'a enregistrée, on est au mois de février 2011, donc c'est pas trop quand est-ce qu'on la rediffuse, mais c'est une émission qui vient d'une émission précédente qu'on a fait donc au mois de décembre, qu'on a décidé de retravailler pour faire un truc plus tranquille et plus clair, et du coup de séparer un peu deux parties qu'on avait un peu faites. Donc là, c'est moi qui vous ai beaucoup parlé, et puis la prochaine, et ben c'est Do qui va nous faire une transmission quelque part de la traduction ou de l'analyse qu'elle a tenté de transmettre simplement de Elsa Dorlin, d'un texte qui s'appelle Performe ta race, performe ton genre. Donc c'est un peu le deuxième volet de cette émission qu'on avait pensé ensemble au départ. Et voilà, et c'est passionnant. Je vous souhaite de l'entendre. Et puis
là, j'ai le coup de pression là. Merci.
Mais non, mais tu l'as déjà fait. Donc, ce sera même encore mieux la deuxième fois, j'en suis sûre.
Parfait.
Et du coup, et ben peut-être on aura le temps de s'écouter Kenny Arcana après les Mafia. Donc Kenny Arcana, j'avais mis quoi, il faut qu'on s'en sorte, donc ça ce serait la deuxième chanson après les Mafia, MLF, une nouvelle ère.
Ah ouais, c'est une tuerie, écoutez bien.
Et à quand la fin de toute forme de distinction sociale, à quand la fin de toute forme de ségrégation raciale, à quand la fin de toute forme de discrimination femme, c'est pour Nana Beur, rappeur, chaîne de garde, cité Mafia, MLM, pour une nouvelle ère.
Oh yeah, peuple femme, bravo dames, tapez du poing sur la table, il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oh yeah, oh yeah, peuple femme, bravo dames, levez le poing en l'air et séchez vos larmes. Oh yeah, oh yeah, peuple femme, bravo dames, tapez du poing sur la table, il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oh yeah, oh yeah, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes.
Et après le mouvement de libération des femmes, PNLM, LF 2000 en force unie pour un nouveau combat, un nouveau discours, un nouveau débat. Ah, comme des forcenés, à vol on force les portes, on est prêt à négocier la parité à tous les niveaux, dans toutes les classes sociales, la mixité, l'égalité des salaires. Les lois changent mais les mentalités stables, convaincus. Je revendique des principes ou des ratères que des histoires de cul. Fini les années 75, les manifestations portées par des intellos. Un coup de chapeau, merci encore pour ces guerrières de France. Mais c'est pas fini pour ces filles 20 ans, jeunes et jolies, issues d'immigration et des quartiers populaires. Pour elles, je continue, je m'avance avec celles qui veulent. Je me bats pour une nouvelle ère. Mafia, tout unir pour le même combat.
Oh yeah, oh yeah, peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table, il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oh yeah, oh yeah, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes. Oh yeah, oh yeah, peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table, il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oh yeah, oh yeah, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes.
MLF, une nouvelle ère,
armée, plus sereine, moins virulente, calme, plus apaisée, posée. Cherche l'harmonie et l'équilibre entre l'homme et la femme. Tu vois, toi, tu trouves ça normal que chaque année soit
60 à 200 femmes meurent de violence conjugale. Et dis-moi toi, comment tu réagis si je te dis que les Afghanes sont privés de tous les droits et risquent le fouet, si elles n'obéissent pas à leur mari. Et en effet, les chiffres prouvent, les faits sont réels. Et si on dit rien, on fait rien.
On assiste à une merde universelle.
Je veux pas être complice
d'homicide,
d'hécatombe de supplice envers les femmes, au nom des miennes, au nom de celles qui souffrent en silence. Me fiens pas en avant vers une nouvelle ère.
MLF, une nouvelle ère, me fiens, prends la relève. De nos jours, les droits de la femme sont bafoués. Encore des femmes exilées pour des mariages forcés. Dans certaines familles d'Afrique, on voit aussi des femmes abusées, violées, assassinées partout dans le monde. Les droits de la femme au Pakistan sont inexistants. C'est consternant de voir ces femmes se faire répudier pour le simple fait d'avoir mis au monde une petite fille fidèle à la tradition.
Oye, oye, peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table. Il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oye, oye.
Tu m'as ouvert les micros ou pas? D'accord. Alors donc, ben voilà, simplement pour se quitter et vous dire au revoir. Rien à signaler. C'est donc l'émission qu'on vient d'entendre et qui a lieu un mercredi sur deux, voilà, par mois. Donc faut tomber sur nous. Sinon, on espère bientôt arriver à mettre nos émissions sur Internet.
Et ah
oui, 20h-21h, une fois sur deux. Et puis un truc qu'on n'a pas dit et qu'on n'a pas casé, mais auquel on a pensé et on réfléchit tout ça et qu'on avait envie de nommer, bah c'est simplement que nous on est plutôt blanches et voilà, c'était une petite précision comme ça. Et puis même si on s'identifie pas comme blanches, mais voilà, c'est plutôt le teint, une question de teint. Voilà. Et puis simplement, eh bien, finir avec donc Kenny Arcana. Faut qu'on s'en sorte. À bientôt.
Trop de frères ont baissé les bras. Et trop de sistas sont en pleurs, trop de gosses ont perdu le sourire et trop de parents ont peur dehors. Trop de jeunes finissent comme et ou voleurs, la vie truse, la déteste. Car elle m'a pris trop de frères et sœurs, où est ma fratrie, batterie. Quand ça tape comme une batterie, trop pète les plombs. Finissant sans ou en psychiatrie, une pensée pour vous, que Dieu vous fasse tenir debout. Gardez la force et la foi, sachez que mon cœur est avec vous. Et je dis aux grands dehors, arrêtez de faire les cons devant les petits. Mais merde, dites-leur qu'en être enfermé, ça peut traumatiser ta vie. Dites-leur aussi que les vrais c'est ceux qui savent dire non. Les vrais c'est ceux qui sont eux-mêmes et qui ne suivent pas les moutons. Ouais, dites aux mômes que la foule. C'est marrant quand on commence, mais moins quand on veut arrêter. Car comme toute drogue, y'a dépendance. Si tu gères pas, elle peut paralyser ta vie. Wesh, la famille, faut qu'on soutienne et qu'on avance loin de la Bible. On s'en sort tous ensemble, alors vas-y, fais passer le mot. Trop de galères, prison de drogue et de mort jeune. C'est trop, ça s'arrête. Alors je le crie dans mon mic, faut qu'on s'entraide dans nos rues. Car on est tous enfermés dans le même sac. On s'en sort tous ensemble, alors vas-y, fais passer le mot. Trop de galères, prison de drogue et de mort jeune. C'est trop, ça s'arrête. Alors je le crie dans mon mic, faut qu'on s'entraide dans nos rues. Car on est tous enfermés dans le même sac. Si mes frères s'en trop tu, mes frères sneak entre eux, trop d'énergie perdue, car on a tous trop de rage au ventre. Ça rentre, ça sort, aller-retour entre rue et tôle. Les petits matzas, ils croient que la street est une pure école. Les dures épaules se forment en tenant chaque mur. Mais dites-leur qu'à jouer les durs, les cœurs viennent prisonniers de cette armure. Froid, les dites incassables, comme dit Gonzo, cherche la paix. Ensuite, c'est comme chercher une poussière dans un tas de sable. Les frangins viennent prisonniers de leur propre rôle. Certains guettent le moment opportun, dit que les autres auront. Les mères craquent, ne comprennent plus ce que certains s'amusent à appeler notre putain de génération perdue. Le quotidien perturbe, car il est tel un tourbillon dans lequel combien de mes frères seraient prêts à tuer pour millions, hein. On a perdu de vue notre véritable ennemi qui lui se réjouit à la vue de notre autodestruction. Faut qu'on s'en sort tous ensemble, alors vas-y, fais passer le mot. Trop de galères, prison de drogue et de mort jeune. C'est trop, ça s'arrête. Alors je le crie dans mon mic, faut qu'on s'entraide dans nos rues. Car on est tous enfermés dans le même sac. Faut qu'on s'en sort tous ensemble, alors vas-y, fais passer le mot. Trop de galères, prison de drogue et de mort jeune. C'est trop, ça s'arrête. Alors je le crie dans mon mic, faut qu'on s'entraide dans nos rues. Car on est tous enfermés dans le même sac. Faut qu'on s'en sort tous ensemble, alors fais passer le mot. De Marseille jusqu'à Paris, toutes les villes, partout, toutes les rues, partout, les quartiers, partout, faut qu'on soutienne, car on est tous enfermés dans le même sac, et on a perdu de vue notre véritable ennemi, frangin, frangine, quoi, on fait partie du même camp, unité, pas oublié, ok, Kenny Arcana, la rabia del pueblo, la cachita, size, size.
systématique, réelle fiction, arrache du peuple. Faut qu'on s'en sorte tous ensemble, alors fais passer le mot.